France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La SNCF à nouveau bénéficiaire, 1,8 milliard d'euros l'an dernier. Le trafic TGV bat des records. La compagnie va utiliser cet excédent pour moderniser son réseau. Les inscriptions sont closes pour les élections municipales. Il n'est plus possible d'être candidat depuis quelques minutes. Dans ce journal, nous ferons le point sur les listes investies par les partis politiques. Et à 18h15, notre rendez-vous maire pour quoi faire, consacré ce soir aux stations de ski menacées par le réchauffement climatique. Un enjeu majeur pour les communes de basse et moyenne montagne. Une victoire pour l'AFD en Allemagne. Le parti d'extrême droite n'est plus extrémiste, selon la justice allemande. Le tribunal administratif de Cologne contredit le classement décidé par l'Office de protection de la Constitution allemande. La SNCF va bien. La compagnie ferroviaire a enregistré l'an dernier un nouveau bénéfice, 1,8 milliard d'euros, soit 200 millions de plus qu'en 2024. Un bon résultat porté par un trafic record pour les TGV, en France comme en Europe, avec 168 millions de passagers en 2025. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Stanislas Vazak.
Vous êtes au siège de la SNCF à Saint-Denis, près de Paris. Ce bénéfice, Hakim, va d'abord servir à moderniser le réseau ferré qui en a bien besoin.
Oui Stanislas, avec une moyenne d'âge comprise entre 25 et 30 ans, nous avons l'un des plus vieux réseaux ferroviaires d'Europe. C'est pourquoi la SNCF va investir ses 1,8 milliard d'euros de bénéfices pour la régénération de son réseau, mais aussi pour l'achat de nouvelles rames, comme l'explique Jean Castex, le nouveau PDG de la SNCF.
Oui, cet argent, il a une destination connue à l'avance, le réseau, les infrastructures, les aiguillages et le matériel roulant. On a trop longtemps sous-investi dans notre réseau ferroviaire, on le sait. Je rappelle qu'il faut aussi investir dans le matériel roulant. Aujourd'hui, je suis à la fois un PDG de la SNCF heureux parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans nos trains, et en particulier dans nos TGV, mais je refuse du monde parce qu'on manque de rames.
Un réseau sur lequel circulent également des concurrents privés de la SNCF, comme l'italien Trenitalia ou encore l'espagnol Renfe. Des opérateurs qui privilégient les liaisons TGV les plus rentables, ce que dénonce le PDG de la SNCF, qui espère que l'État mettra en place des mesures incitatives. Ce qu'espèrent aussi les syndicats, qui estiment que c'est à l'État et aux régions de subventionner le manque à gagner. Fabien Villieu est le secrétaire général de Sudrail.
Ancienne règle, c'était quoi ? C'était que finalement, il y avait une espèce de péréquation qui se faisait à l'intérieur où les trains rentables finançaient les trains qui ne l'étaient pas. Là, on ouvre à la concurrence et les concurrents, eux, ne se positionnent que sur le marché rentable. Ces nouvelles règles ne peuvent plus fonctionner. Donc, il faut créer de nouvelles règles. Les nouvelles règles, elles sont très simples. On fait une mission de service public. Ils font donc des financements publics.
Enfin, sur la question épineuse des tarifs, Jean Castex indiquait qu'il ne baisserait pas, mais qu'en revanche, les trains Ouigo, qui est l'offre low cost de la SNCF, elle passera à 30% d'ici 2030.
Hakim Kasmi, depuis le siège de la SNCF, avec Hélène Langlois pour les moyens techniques. Si vous vouliez vous présenter aux élections municipales, c'est trop tard. Depuis 18h, il n'est plus possible de déposer sa liste en préfecture pour le scrutin des 15 et 22 mars. D'ici quelques jours, le ministère de l'Intérieur donnera un décompte précis du nombre de listes et de candidats. En 2020, lors des dernières municipales, il y avait eu plus de 900 000 candidats. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Stanislas.
En attendant ce décompte, on a déjà une idée du nombre de listes investies par les partis politiques.
Oui, c'est le Parti Socialiste qui revendique le plus de candidats investis, environ 2000 dans toute la France. Le PS reste le parti de gauche le plus implanté localement, à la tête d'une centaine de villes de plus de 20 000 habitants. Toutefois, il a perdu un grand nombre de communes et de conseillers municipaux lors des municipales de 2014, qu'il n'a pas récupéré lors du dernier scrutin en 2020. La spécificité du Parti Socialiste est qu'il détient encore de nombreuses métropoles, Rennes, Nantes, Lille, Marseille et surtout Paris. L'objectif du PS sera donc avant tout de conserver ses bastions. À gauche, toujours, le Parti Communiste est celui qui arrive en deuxième position en nombre de candidats investis, 900 dans l'ensemble du pays. Depuis les années 80, le PCF essaie de contenir la lente érosion de son implantation locale. À l'époque, il détenait plus de 70 communes de la couronne parisienne. On en compte aujourd'hui à peine plus d'une vingtaine. L'objectif des communistes sera donc encore une fois d'essayer de préserver ce qui peut encore l'être. La nouveauté à gauche vient de la France Insoumise, qui contrairement à 2020 a décidé de s'implanter localement et a investi 500 candidats dans tout le pays. Refusant quasiment partout de faire alliance avec les autres forces de gauche, ce qui obère grandement ses chances de conquête. Quant aux écologistes, ils vont essayer de préserver leurs acquis dans les grandes villes conquises en 2020. Ils n'ont procédé qu'à une cinquantaine d'investitures.
À droite maintenant, Stéphane, les Républicains ont investi des centaines de candidats.
234 exactement dans les 283 villes de plus de 30 000 habitants que compte la métropole. Et puis ils ont investi des centaines d'autres candidats dans les villes de moins de 30 000 sans qu'on ait un chiffre précis. Les investitures dépendant pour ces communes de chaque fédération. Les Républicains restent le parti politique le mieux implanté localement, à la tête d'un gros tiers des 1000 communes de plus de 10 000 habitants. Sa difficulté est qu'il est aujourd'hui très peu présent dans les grandes villes. Enfin, à l'extrême droite, le Rassemblement National a investi et soutient 650 candidats, deux fois plus qu'en 2020. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella ambitionne de conquérir des villes et de faire élire le plus possible de conseillers municipaux, susceptibles de devenir des grands électeurs qui voteront aux élections sénatoriales du mois de septembre.
Stéphane Robert, merci. Les municipales, on en reparle après ce journal avec notre rendez-vous maire Pourquoi faire ? Les jeunes d'origine étrangère ou perçus comme tels souffrent d'un cumul de discriminations. C'est la défenseure des droits, Claire Hédon, qui l'affirme dans son dernier rapport. Au cours des cinq dernières années, un quart des jeunes de 15 à 26 ans, descendants d'immigrés ou nés en Outre-mer, déclarent avoir subi au moins une discrimination liée à l'origine ou bien à la couleur de peau. Héloïse Weiss, bonsoir.
Bonsoir.
L'insertion professionnelle ou encore l'accès au logement sont plus difficiles pour ces jeunes gens.
À l'image de Joseph, 22 ans, aujourd'hui étudiant dans le domaine de la culture, il se souvient des discriminations qu'il a vécues dès l'enfance. Ses cheveux que ses camarades touchaient sans son consentement, cette professeure de mathématiques, au comportement anormalement sévère avec les élèves non blancs. Et dernièrement, sa recherche de stage très compliquée en tant que jeune homme noir, c'est ce qu'il raconte.
Là où beaucoup de mes camarades ont passé des entretiens, moi c'est qu'à partir du moment où j'ai enlevé ma photo, que j'ai commencé à avoir des réponses de la part des personnes qui proposaient les offres de stage en fait. Et c'est un phénomène qui est récurrent à beaucoup de personnes racisées en France. C'est une manière assez étrange de le dire. J'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un nom et un prénom qui très souvent fait que je ne suis pas disqualifié automatiquement par beaucoup de recruteurs, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de mes amis.
Outre les stigmatisations durant le parcours universitaire, la défenseure des droits indique que 40% des jeunes perçus comme noirs ou arabes se disent discriminés dans leur recherche d'emploi. Et dans la recherche de logement, là aussi les réponses sont plus souvent négatives lorsque les jeunes sont racisés. C'est le cas de Zainab, originaire du Maroc et étudiante en France depuis 4 ans.
Dans mon dossier, on voit bien que je ne suis pas d'origine française, ni moi ni mes garants. Je ne serai soit pas rappelée, soit mon dossier ne sera pas pris, alors qu'au début, ça se passait bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que les propriétaires qui ont accepté mon dossier ont beaucoup essayé de profiter du fait que j'étais étrangère pour m'arnaquer sur une caution. Ça, je l'ai aussi vécu.
Face à ce cumul de discriminations que subissent ces jeunes, la défenseure des droits Claire Hédon formule 12 recommandations et appelle à faire du sujet une priorité politique.
Explication signée Héloïse Weiss. En Allemagne, l'AfD, la principale formation d'extrême droite, a remporté aujourd'hui une importante victoire juridique. Le tribunal administratif de Cologne a considéré que le renseignement intérieur allemand ne pouvait pas classer ce parti comme extrémiste. Une décision qui contredit le classement ordonné il y a un an par l'Office de protection de la Constitution. L'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, est aujourd'hui la principale force d'opposition à la coalition du chancelier conservateur Friedrich Merz. Nathalie Versieux nous appelle de Berlin.
Les services de renseignements allemands se sont livrés pendant des années à un travail de fourmi pour réunir les preuves des activités extrémistes et contraires aux principes de la constitution de l'AfD, épluchant les programmes électoraux et se rendant de soirées électorales en barbecue nationaliste. Le 2 mai dernier, ils rendaient leur avis, estimant que l'AfD agissait contre les intérêts de la constitution. La politique anti-islam du parti ferait notamment des musulmans allemands des citoyens de seconde zone. Sur le fond, le tribunal de Cologne ne conteste pas les conclusions de l'Office de protection de la Constitution. Pas de blanc-seing pour l'AfD donc. Mais c'est incontestablement une victoire d'étape pour la direction du parti. Les services de renseignement ne sont plus autorisés à mettre les membres du parti sur écoute. Ils ne peuvent plus non plus recruter des agents en interne. La patronne du mouvement, Alice Weidel, a évoqué dans l'après-midi une victoire de la démocratie. 5 directions régionales de l'AFD restent, elles, classées comme extrémistes.
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui à 1 an de prison ferme l'iranienne Mahdieh Esfandiari. L'Iran présente cette femme de 39 ans comme une possible monnaie d'échange pour permettre le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours bloqués à l'ambassade française à Téhéran. Mahdieh Esfandiari a été condamnée pour avoir fait l'apologie des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Une peine assortie d'une interdiction définitive du territoire français. L'iranienne est aujourd'hui en liberté en France après avoir déjà effectué 8 mois de détention préventive. Les explications d'Aurélien Tirard.
Lors de son procès le mois dernier, cette traductrice iranienne se disait victime, je cite, d'un acharnement judiciaire. Elle qui a déjà passé 8 mois derrière les barreaux. Le tribunal correctionnel la condamne à 4 ans de prison avec sursis et 1 an ferme. Et cela pour avoir relayé en 2023 sur Internet des vidéos antisémites, mais aussi des images d'exactions du Hamas sur Telegram, mais aussi sur un site appartenant à Alain Soral, ce polémiste antisémite d'extrême droite. À la barre, elle s'est justifiée ainsi. C'est une façon pour elle d'informer sur ce qui se passe en Palestine. Elle qui affirme avoir été journaliste en Iran, elle est arrivée en France à Lyon il y a 8 ans. Décrite par les psychiatres qui l'ont expertisée comme influençable, eux qui notent chez elle une vraie radicalité. Son avocat que nous avons contacté nous l'indique, elle compte faire appel de ce premier jugement. Cet appel étant suspensif, elle reste libre.
Francesca Albanese a reçu aujourd'hui le soutien de plusieurs collègues experts de l'ONU aujourd'hui à Genève. La rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens est dans le collimateur de la France. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait réclamé sa démission le 11 février dernier, lui reprochant des déclarations jugées antisémites. Depuis, la France a baissé d'un ton dans cette affaire, mais la charge contre Francesca Albanese a laissé des traces à l'ONU, Jérémy.
En quelques jours, Paris est passé d'un appel à la démission à un appel à des propos plus modérés de la part de Francesca Albanese. La principale intéressée s'en réjouit à un détail près.
Je prends note du fait que la diplomatie française a changé d'avis finalement. Et j'aurais attendu aussi un mot de clarification et d'excuses parce qu'ils m'ont insulté de façon virulente, inacceptable.
La juriste italienne est une habituée des accusations d'antisémitisme depuis qu'elle utilise le terme de génocide à Gaza. L'ONU n'a pas repris le mot, mais cette liberté de ton, c'est justement le rôle des rapporteurs spéciaux, souligne celui sur l'Afghanistan, Richard Bennett.
At times, states may not agree with reports and statements.
Les États peuvent ne pas être d'accord avec ce que disent et ce qu'écrivent les rapporteurs spéciaux, mais déformer de manière délibérée leurs propos et leurs opinions et les attaquer personnellement, c'est déplorable. Is beyond
the pale. 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies rassemblés pour se défendre face aux attaques de diplomates européens contre l'un d'entre eux, c'est en tout cas une première à l'ONU, comme le fait de n'avoir quasiment aucun journaliste présent en salle de presse pour les écouter.
Jérémy Lange depuis Genève. C'est un séisme de plus dans l'affaire Jeffrey Epstein. Le patron du Forum économique mondial à Davos a présenté aujourd'hui sa démission. Le nom du Norvégien Børge Brende apparaît dans les millions de documents publié par la justice américaine. Lui aussi était en lien avec le financier pédocriminel mort en détention en 2019. Élie Ducau, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Børge Brende a participé à des dîners à New York avec Jeffrey Epstein, avec lequel il a échangé des textos.
Et oui, le désormais ex-patron du forum de Davos déclare quitter ses fonctions après mûre réflexion et se dit convaincu que le forum peut poursuivre son travail sans distraction. Au début du mois, au moment de la publication des documents par la justice américaine, Børge Brende avait dit ne pas avoir eu conscience du passé et des activités criminelles de Jeffrey Epstein. Il était donc resté en poste. Børge Brende, diplomate et ex-ministre norvégien des Affaires étrangères, explique avoir rencontré Jeffrey Epstein en 2018 lors d'un dîner à New York avec d'autres dirigeants. En 2019, il était encore présent à ses côtés à New York, là encore avec des dirigeants et diplomates pour 2 dîners et avait échangé avec lui une centaine de textos et de mails. L'étendue de ses liens avec Epstein se limitait à cela, a-t-il assuré. Rien de pénalement répréhensible donc, mais sa situation était devenue, semble-t-il, intenable, car Jeffrey Epstein est accusé d'avoir exploité sexuellement plus de 1000 jeunes femmes, dont des mineurs. Il s'est pendu dans sa cellule en 2019, avant d'avoir pu être jugé. Le Norvégien était à la tête du forum Forum économique mondial de Davos depuis 2017. L'organisation réunit chaque année dans la station de ski suisse le gratin du monde économique, politique et diplomatique.
Élie Ducot de la rédaction internationale de Radio France. L'affaire Epstein, c'est aussi l'audition en ce moment devant une commission du Congrès américain d'Hillary Clinton, mise en cause avec son époux Bill dans le dossier. Hillary Clinton qui demande ce soir l'audition sous serment du président américain Donald Trump. Un mot du temps demain, faiblement pluvieux à l'ouest avec l'arrivée d'une perturbation sur la Bretagne, nuageux autour de la Méditerranée, ensoleillé ailleurs. Les températures minimales iront de 3 à 11 degrés. L'après-midi, toujours la douceur, entre 12 et 21 degrés du nord au sud.